c'est Wiz.
Je suppose que ça va embêter beaucoup de gens.
Monsieur le Président, il compte bien.
J'arrive à croire qu'elle me comprend quelquefois. Et je me comprends pas moi-même.
Du rap.
Bon, 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 bon.
Toutes les musiques des tropiques. Une heure de musique atmosphérique.
Sur le 88.3.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin de Tributaire.
Et je suis Alice, VPG de FEM.
Et nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'émission sur le VIH diffusée sur Radio Campus.
Nous sommes toujours en compagnie de la docteure Lucille Mollet.
Bonjour à tous, rebonjour.
Ainsi que du docteur Thierry Prazuc.
Bonjour.
Depuis les années 80, les personnes atteintes du sida subissent de nombreuses discriminations. Le sida était autrefois nommé, comme on l'a bien dit au podcast précédent, le cancer gay. Et aujourd'hui, certains pays pratiquent encore des discriminations très fortes. On peut notamment penser à la Syrie, qui demande un test VIH négatif à l'entrée du pays, mais aussi à l'Inde, qui stérilise de manière forcée les femmes séropositives. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte social et les discriminations que peuvent subir les personnes atteintes du sida?
On en a parlé déjà tout à l'heure sur ce contexte social et discrimination. On a vu des discriminations qui étaient liées aux symptômes physiques, le sarcome de Kaposi, vous verrez les lipoatrophies. Les patients VIH, ils ont l'impression que c'est écrit sur leur front. Et en réalité, effectivement, il y a eu beaucoup de discrimination, de rejet, et on va voir où on en est aujourd'hui. Donc, c'est les résultats d'un sondage. Bon, il est pas très récent, mais tout de même, 2017. Hein. Je vous signale que les jeunes de votre âge, en 2000, avaient une information beaucoup plus bien meilleure, avaient une connaissance bien meilleure du VIH que ce que vous avez aujourd'hui, parce que cette banalisation fait que on vous en parle moins, et peut-être que ça vous intéresse moins, mais enfin, ça vous intéresse puisque vous êtes là. Donc c'est bien que vous soyez là, et en tout cas, pour essayer d'avancer sur la connaissance, parce que c'est avec la connaissance qu'on réduit les discriminations. Donc c'est une enquête qui a été faite par l'association AIDE, avec un certain nombre de questions qui ont été posées à un panel à peu près représentatif de la population française. Et la première question qui était, selon vous, une personne séropositive sous traitement peut-elle vivre comme tout le monde aujourd'hui en France? Donc vous voyez les réponses, 13% ont considéré que non. Avec les 16% qui considèrent que la vie n'est pas la même et les 18-24 ans, on en est à 18%. Ça veut dire qu'effectivement, par rapport aux 13% globalement, c'est ce que je vous dis, ça illustre bien le fait que les personnes qui ont plutôt 40-50 ans et qui avaient 20 ans il y a 20 ans, eh bien, ont une bien meilleure connaissance et ont beaucoup mieux répondu au questionnaire. Voilà, 87% disent oui. Alors, la réponse, c'est quoi? C'est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'espérance de vie d'une personne séropositive est la même qu'une personne séronégative. Oui, bon, on verra que c'est pas tout à fait le cas. Est-ce qu'ils vivent de la même façon? Non, parce que en réalité, il y a ce problème de discrimination. Vous êtes séropositif ou séropositive, vous cherchez à avoir une compagne. Donc soit vous lui dites pas. Moi, j'ai un certain nombre de mes patientes qui n'ont pas dit à leur compagnon, et s'il a fait un certain nombre d'années qu'ils sont ensemble, hein, qu'elles étaient ou qu'ils sont, notamment des femmes africaines, parce qu'elles savent que si elles disent qu'elles sont séropositives, c'est dehors, la porte c'est là-bas. Hein. Donc, à la limite, si elles ont une charge virale indétectable, bon, moi ça me choque pas, mais vraiment il faut qu'elles soient super clean sur le traitement pour éviter de contaminer. Mais de toute façon, cette discrimination, ce fait d'avoir des relations sociales amoureuses qui vont être perturbées par ça, fait que on peut pas dire qu'on vit de la même façon lorsqu'on est séropositif. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que l'un de vos enseignants ou de votre enfant est séropositif. Les enseignants. Ah oui, parce que c'était posé à des étudiants, hein, cette question. Eh bien, vous en avez 21% qui seraient mal à l'aise de savoir que leur enseignant... Qu'est-ce qu'ils font, les enseignants, avec leurs étudiants? Je pensais qu'ils donnaient que des cours. Non? Ils seraient mal à l'aise de suivre des cours avec leur enseignant séropositif. Et avec les enfants, également, donc, un sentiment de rejet. Troisième question, donc des représentations erronées qui alimentent hein, le rejet et la défiance, et notamment j'ai peur des risques de contamination, j'ai peur des nouvelles. Voilà, j'ai peur des risques de contamination. Pourquoi est-ce que vous êtes mal à l'aise? Parce que j'ai peur des risques de contamination. Donc on en revient à la question de tout à l'heure. Hein, savoir si on peut transmettre en buvant dans un verre, en s'asseyant sur les toilettes. En fait, c'est ces personnes-là qui ont ce peu de connaissances qui vont être mal à l'aise et qui vont avoir ce rejet. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis, si vous avez la connaissance, vous avez moins de rejet. C'est finalement pareil avec les populations, quelles qu'elles soient. Lorsqu'il y a un rejet, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Vous voyez, le rejet des populations migrantes, il est plus important dans les populations rurales qui n'en ont jamais vu. J'ai peur d'être confronté à une personne malade et je pense que cette personne ne serait pas apte physiquement à faire son métier dans de bonnes conditions. 10% pensent que si une personne est séropositive, elle n'est pas capable de faire son travail dans de bonnes conditions. Tous mes patients, ils travaillent. Quand ils le peuvent, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et je pense que cette personne ne serait pas apte psychologiquement à faire son métier dans de bonnes conditions. C'est 7% des personnes qui répondent de façon positive à cette question. Des représentations qui alimentent le rejet et la défiance, donc des pratiques professionnelles discriminatoires. Et là, effectivement, on a 31% des personnes qui considèrent qu'il est normal que l'on puisse considérer les personnes séropositives inaptes à exercer ces métiers, notamment les métiers de policiers, de gendarmes. Alors, en 2017, c'était des métiers qui étaient interdits aux séropositifs. Hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, en fait, ça a changé très récemment. Hein, je crois que c'était l'année dernière où on autorise les policiers à être séropositif. Donc pourquoi est-ce que les pompiers éventuellement, parce qu'il va y avoir un contact avec le sang, donc vous allez contaminer, vous voulez sauver les gens et puis vous allez les contaminer parce que vous êtes blessé en faisant des gestes, etc. Voilà, donc tout ça c'est balayé, mais voyez, c'était en 2022 que ces dispositions ont été supprimées. Donc, les avancées thérapeutiques également, une ignorance généralisée des avancées thérapeutiques. Selon vous, lors d'un rapport sexuel non protégé, le risque qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH est-il? Donc, il y en a 48%. Qui considère qu'effectivement, il y a un rapport protégé avec une personne sous traitement antirétroviral. Hein, il y en a 48% qui considèrent qu'il est très élevé et 39% qu'il est plutôt élevé. Donc, vous l'avez là. Vous voyez comme c'est les réponses qu'on a vues avant sont en discordance avec cela. Là, ils considèrent qu'il n'y en a que 13% des personnes qui sont interrogées qui considèrent qu'il y a un risque de contamination avec une personne séropositive traitée sans préservatif. Or, la réponse est il n'y a pas de transmission, même sans préservatif, avec quelqu'un efficacement traité. Donc, automatiquement, il va y avoir de la discrimination, puisque je sais que tu es séropositif, même si tu es traité, bon, peut-être avec des préservatifs, et encore... Peut-être que j'aurais peur. En tout cas, sans préservatif, à 90%, c'est hors de question. Selon vous, le risque qu'une femme enceinte séropositive sous traitement transmette le VIH, eh bien là encore, on n'en a que moins de 30%, 29% qui disent que sous traitement, la maman va transmettre le virus au bébé, alors que c'est 0%. lorsqu'il n'y avait pas de traitement, le risque de transmission de la mère à l'enfant était de 25 à 30%. Avec le traitement, c'est 0%. On a très régulièrement... Ah, il y a encore 15 ans, moi, il y avait des collègues qui disaient « Ah non, 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 vous ne pouvez pas être enceinte. Hein. Il est hors de question que vous soyez enceinte. » Bon, et aujourd'hui, toutes nos patientes qui sont enceintes, ben, si vous voulez être enceinte, il n'y a pas de problème. On vous garantit... D'ailleurs, c'est souvent la première question que nous posent les femmes. « Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ?» Donc on leur dit « Oui, vous allez pouvoir avoir des enfants sans aucun problème à partir du moment où vous êtes sous traitement. » Ceci dit, bon... L'enfant, il va être suivi pendant un an. Il y a toujours... Le stress persiste tant que c'est pas, il n'y a pas le papier en disant l'enfant, il est séronégatif. Parce que l'enfant, il est séropositif à la naissance. Il a reçu les anticorps transmis de façon passive par la maman. Donc, il va rester positif pendant un an. Et au bout d'un an, il va perdre les anticorps de transmis par la maman au niveau de la naissance. Donc, il va y avoir ce stress pendant un an. Voilà. Même si nous, on essaie de rassurer, etc. C'est leur enfant. Donc, on va passer sur la mortalité, l'espérance de vie. Hein. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement... Enfin, c'est pas un problème, c'est une chance. Les patients, ils vieillissent, comme les médecins, d'ailleurs. Donc, ils vieillissent, et d'ailleurs, les jeunes médecins, ils s'intéressent de moins en moins au VIH, malheureusement. Et donc, ils vont avoir des comorbidités. Ils ne vont pas avoir que le VIH. Donc, vous voyez qu'en 2018, on avait 56% des patients VIH qui avaient plus de 50 ans. Alors que dans les années 2011, c'était 34%. Donc, ils ne meurent plus. L'ophilèse active augmente, puisqu'on a de nouveaux cas qui sont dépistés. Et on a moins de, et on a moins de décès, donc a fortiori. Moi, j'ai une patiente, on a des patients qui ont entre 85 et 90 ans aujourd'hui, ce qui pose des problèmes lorsqu'ils vont à l'EHPAD. Parce que là-bas, ils ont peur du VIH, hein. Donc il faut les rassurer. Et un patient, il est dans une EHPAD, il a fallu que j'intervienne, qu'on fasse intervenir l'ARS, pour leur dire « no panic ». La panique, c'était dans les années 85. Mais voilà. Donc, les patients vieillissent. En 2017, la moitié des hommes et le tiers des femmes avaient plus de 50 ans. Le tiers des femmes, parce que la majorité des femmes qui sont infectées en France sont des femmes d'origine subsaharienne. Et qui viennent, elles sont plus jeunes. Voilà. Et donc, donc la mortalité, globalement, vous voyez que sur ces courbes-là, la courbe du bas, bah, c'était l'espérance de vie dans les années 96-99, au tout début des trithérapies. Vous voyez la courbe des patients VIH négatifs. Et que plus ça va, plus les courbes tendent à remonter vers la courbe de l'espérance de vie des personnes séronégatives. Alors voilà, ça c'est les statistiques 2006-2014, probablement on se rapproche. On n'en est pas là encore et on a fait plusieurs études en France sur la mortalité des patients VIH en 2000, en 2005, en 2010. Il n'y en a pas eu depuis. Mais ce qu'on a vu, c'est que vous voyez en haut que en 2000, lorsqu'un patient VIH décédait, dans un cas sur deux, c'était lié au sida. C'était lié, donc il était mort d'une infection opportuniste. Une toxoplasmose cérébrale, une leucoencéphalite multifocale. Et puis, petit à petit, eh bien, en 2005, il n'était plus que 36%. Donc, c'est-à-dire que les 47%, donc... Les autres qui s'étaient décédés, ils étaient décédés d'autre chose que du sida. Bon, ils avaient pu se faire renverser sur la route, avoir un accident de voiture, etc. Après, c'est plus que 36%. Ensuite, c'est plus que 25% en 2010. Aujourd'hui, on est aux alentours de moins de 10% des personnes. Parmi tous nos patients qui décèdent, ils décèdent de quoi ? Eh bien, ils décèdent du cancer. Et le cancer, les lymphomes, il y a plus de cancer chez les patients VIH positif que chez les patients VIH négatifs. Des cancers du sang, hein, notamment des leucémies, des lymphomes, des cancers du poumon. Et lorsque le patient il a un cancer, il évolue beaucoup plus vite, même s'il a une charge virale indétectable. parce que son système immunitaire, il a été quand même abîmé et il ne va pas le restaurer aussi bien qu'une personne qui n'a pas eu ce traumatisme immunologique initial qui a duré un certain nombre d'années. Alors, les patients VIH sont plus fumeurs que les patients non VIH. Est-ce qu'ils sont plus alcooliques que les patients VIH que nous, on va dire?
Nous, non. Je ne sais pas. Mais...
voilà. Et donc, il y a une modification. Donc, aujourd'hui, le médecin qui s'occupe du VIH, il s'occupe des traitements, il s'occupe des comorbidités, il s'occupe du diabète, il s'occupe de l'obésité, il s'occupe du dépistage des cancers, etc. Après, nous, on ne va pas traiter les cancers, on passe la main à nos collègues hématologues, cancérologues, etc. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cancers liés au papillomavirus qui donnent des cancers ORL, des cordes vocales. J'espère que vous êtes tous vaccinés contre HPV, hein? Parce qu'il va y avoir une montée des cancers, pas que du cancer du col, de l'utérus, ni chez les patients gays, c'est le cancer du canal anal, mais également du poumon et de la gorge liés à ce virus HPV. Alors voilà un patient qui a une lipoatrophie du visage à droite. Donc ça, c'était les traitements initiaux, hein, notamment les analogues nucléosidiques qui contiennent de la thymidine, qui donnait cet aspect-là que moi je corrige régulièrement toutes les semaines, presque toutes les semaines, je fais des injections dans le visage de produits de comblement parce que c'est super stigmatisant. Voilà. Et donc, l'augmentation de la prévalence, des maladies cardiovasculaires, des cancers non classants, de l'ostéoporose, des déficits neurocognitifs, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui se rajoutent dans les comorbidités. Alors, ces facteurs associés, c'est l'âge qui est plus important, le fait d'avoir eu un système immunitaire qui a été dégradé, donc ce qu'on appelle le nadir de CD4, donc le point le plus bas des CD4, ça peut être 5, ça peut être 250 pour certains. Le fait d'avoir une charge virale détectable, ça va favoriser effectivement le développement des comorbidités et des cancers. Et puis là, vous avez... Ah, bah c'est marrant. Et donc là, vous avez... Ça c'est beau, ça. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Elle était en français, elle a été traduite en grec ancien. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ma fille a bidouillé mon truc. Et donc, je n'arriverai pas à vous donner les mécanismes spécifiques du vieillissement, sauf si vous avez fait grec ancien au lycée. Hein, ce qui est très important pour refaire la médecine. Mais il y a un élément important, c'est l'inflammation chronique. Hein, l'inflammation chronique, vous voyez, je ne sais plus lequel. Mais donc c'est bien l'intelligence artificielle, mais ça a quand même ses limites. Demain, on aura plus besoin d'apprendre de langue. Vous savez, vous aurez des écouteurs et l'intelligence artificielle traduira directement. Et puis, vous entendrez le japonais, vous parlez en français. Et puis, vous lui parlerez en français, il écoutera en japonais. Voilà. Bon, c'était une aparté. Et donc, l'inflammation chronique, peut-être que Lucie peut vous parler de l'implication de l'inflammation chronique et de ce qu'elle étudie sur... La problématique aujourd'hui du VIH, parce que c'est pas parce qu'on a une charge virale indétectable qu'on n'a pas une inflammation chronique qui persiste.
Alors oui, effectivement, l'inflammation chronique chez les patients qui sont traités depuis longtemps, ça, c'est des vrais problèmes qui se rajoutent avec comme aussi l'expliquait le docteur Prazuc, ce système immunitaire qui a été sollicité. Et puis, même si le virus est sous contrôle, il reste pour la plupart des personnes infectées cachées dans les réservoirs. Donc, le système immunitaire vieillit prématurément, ce qui amène un certain nombre de perturbations. Donc, cette autophagie va... J'allais y venir, mais j'y viens trop vite. Cette inflammation qui devient chronique fait un peu un tableau clinique comme pourrait avoir d'autres pathologies type plus de connues pour des rhumatismes. En fait, ce qui va arriver aux patients, c'est des maladies de vieux, mais plus jeunes, en fait. À ce propos, effectivement, on étudie ensemble avec le docteur Prazuk un processus biologique qui est à la fois relié au vieillissement et à l'inflammation, qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un processus cellulaire qui permet le recyclage et la détoxification des cellules. Et en fait, on a montré tous les deux que chez les patients, avec le docteur Oclou également, que chez les patients, l'autophagie était altérée. Ce qui fait que le recyclage se fait moins bien, les cellules s'épuisent, et puis la détoxification se fait aussi moins bien. Donc il y a tout un tas de composés toxiques qui vont rester dans les cellules du système immunitaire et qui amènent à cette inflammation, au final, du système. Là, le tabagisme... Il y a des soucis avec le tabagisme. Oui. En fait, je fume, ce qui est mal, mais les diapos sur le tabac, je sais, le tabac, c'est mal.
Oui, donc les patients vieillissent, ils ont une charge virale indétectable, ils ne transmettent plus. Ils ne vivent pas vraiment comme les autres sur le plan social, pas trop sur le plan, quand ils sont jeunes, sur le plan de la santé. Mais ils vieillissent plus vite que les autres et ils ont plus de maladies, de comorbidités, de cancers, de maladies cardiovasculaires. Et voilà, donc finalement, le vieillissement, c'est un tant qu'on n'arrivera pas à guérir, à éradiquer. Pourquoi on n'arrive pas à éradiquer le VIH ? Eh bien, on va le voir. Parce que les traitements que l'on a n'agissent pas sur le virus qui se trouve à l'état latent. Hein ? On va le voir juste après.
Est-ce que le public a quelques questions ?
On a parlé des policiers et des pompiers qui ne pouvaient pas travailler, s'ils étaient séropositifs jusqu'à l'année dernière, ils ne pouvaient pas exercer ces métiers-là. Et on s'est pensé aussi sur la question de... je sais plus comment on appelle ça, des soins funéraires. Je crois que ça a été autorisé à en refaire sur des patients atteints du VIH en 2017 ou 2018. Et avant ça, ils pouvaient pas avoir de soins, donc c'était atroce, surtout pour les proches. Et on s'est posé la question, est-ce que quand on meurt, le virus il meurt? Ou est-ce qu'il continue? Et s'il continue, est-ce que c'est pour ça qu'ils avaient pas le droit d'avoir de soins funéraires?
Alors le virus, il est con le virus, parce que s'il était un peu intelligent comme le virus herpès, lui, il donne des bouquets d'herpès, un peu d'herpès génital, d'herpès labial, ce qui lui permet de diffuser. Il y a des centaines de millions de cas, bien plus que le virus VIH. Alors que le virus VIH, il est con, il tue son hôte, le virus du singe. Lui, ça va, il y a eu une adaptation, il ne tue pas son hôte, donc il peut se multiplier et diffuser. Donc, le virus VIH, lorsque la personne est décédée, elle disparaît, puisque les cellules, elles meurent, donc il ne peut plus rien faire. Alors voilà, donc c'est la ceinture et les bretelles, on a peur, donc les soins funéraires, on les fera pas tant que... Donc après, c'est des dispositions législatives, donc il faut que ce soit voté au Parlement. Les parlementaires, ils y connaissent pas grand-chose. Et ça prend des mois, parce que il y a d'autres trucs à traiter, que ça, c'est un problème mineur, mais ça a été effectivement très compliqué pour des patients. Alors qu'on savait depuis bien plus longtemps que 2017 qu'il y avait pas de problème au niveau des soins funéraires.
En fait, depuis tout à l'heure, on parle essentiellement des traitements que les patients prennent. Et on parle, on a parlé du Covid-19, c'est un virus. Le VIH, c'est un virus aussi. Le Covid, on a eu un vaccin. Pourquoi on parle pas de vaccin pour le VIH ?
Alors, le vaccin pour le VIH, on l'a la communauté scientifique associée à la communauté médicale y travaille depuis la découverte du virus, 1983. Et en fait, toutes les stratégies connues ont été essayées. Il se trouve que ce virus, comme le disait le docteur Prasuc, il est con, mais il est vicelard. C'est-à-dire que dès que tu essayes une vieille technique hein, qui a marché très très bien contre la rougeole, contre la polio, bah, à chaque fois, il trouve un moyen de s'en sortir. Et tu viens de citer le virus... le vaccin contre le Covid qui s'est développé assez rapidement. En fait, pourquoi il s'est développé rapidement ? Parce que ça faisait des années que cette technique-là était au point, notamment parce qu'elle a été travaillée, établie et mise au point comme essai vaccinal contre le VIH. On a tout essayé au niveau VIH comme stratégie vaccinale, de le faire porter par un autre virus, de le tuer comme ceci, de le tuer comme cela. Et bah, tu le sais, il n'y a pas de vaccin qui fonctionne. Mais on y travaille depuis les années 80 et à chaque fois qu'on essaye une stratégie, il trouve le moyen de passer au travers.
D'accord, merci. Pas cool. J'ai une autre question. On a parlé très très brièvement, je crois, tout à l'heure, des patients américains qui, on a entendu des fois dans les faits divers, qui sont guéris du sida. Enfin, j'ai entendu qu'il y avait des guérisons totales. Est-ce que c'est la même chose en France ? Est-ce que c'est possible que toutes les personnes qui sont atteintes du sida puissent guérir de la même manière ?
Alors, ces patients-là, c'est il y a le patient de Berlin, il y a un patient américain, il doit y en avoir trois ou quatre. Ce sont des patients qui ont une leucémie, qui sont séropositifs, ils ont une leucémie et ils doivent avoir une greffe de moelle. Donc, vous avez la greffe de moelle, vous passez quand même dans l'unité stérile et vous n'avez plus du tout d'immunité. On va vous remettre une moelle. Et là, on décide de mettre une moelle qui est la mutation Delta 32 du CCR5. D'accord ? La mutation Delta 32 du CCR5, c'est quoi le CCR5 ? Le virus, pour qu'il rentre dans le lymphocyte CD4, il doit se fixer sur un récepteur. Il y a deux récepteurs, le CCR5 et le CCR4. Le récepteur CCR5, donc c'est une clé, et le virus, il a la clé pour entrer dedans. Sauf que là, il n'y a pas la clé, il n'y a pas la serrure. Chez certaines personnes, il y a cette mutation qui fait que le virus ne peut pas rentrer dans la cellule. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est une mutation qui date de l'an 400 après Jésus-Christ. Et comme pour les virus, pour savoir depuis quand le virus VIH est passé chez l'homme, on a fait la même chose à partir de la mutation Delta 32 du CCR5 qui n'existe qu'en Occident, qu'en Europe occidentale et aux États-Unis et touche 3% de la population. Voilà. Donc, on prend une moelle compatible avec la personne qui va recevoir, qui est receveuse, et en plus, qui est Delta 32 CCR5 muté. Et à ce moment-là, on lui remet, la personne, bah, s'il y a encore du virus qui reste dans son corps, il ne va plus pouvoir infecter les cellules du sang, puisque... On ne parle pas des cellules musculaires, par exemple, on ne parle pas des cellules du rein, ni du cerveau. Ce sont les cellules du sang qui sont infectées par le virus VIH, les globules blancs, les lymphocytes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il est hors de question de généraliser ça. C'est trop dangereux de faire une greffe de moelle. On le fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. On risque de mourir. Je dirais pas 10% de mortalité, mais bien plus que 2 ou 3% de mortalité après une greffe de moelle, hein, avec des chimiothérapies, des infections qui peuvent survenir. Donc non, ce n'est pas la solution d'avenir. Donc, c'est OK, de façon expérimentale, on vous montre que ça marche, mais ça ne va pas plus loin.
Oui, parce que les patients qui ont juste une leucémie, on n'arrive pas forcément à trouver une moelle compatible. Donc déjà, de base, trouver cette compatibilité, même au niveau d'autres organes, c'est compliqué, mais là, c'est mission impossible, quoi.
C'était le troisième épisode de cette série autour du VIH, dans le cadre d'une conférence sur le VIH organisée par les associations FEM et Tributaire. avec les docteurs Lucine Mollet et Thierry Prazuc. Merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés.
Vous pourrez réécouter cet épisode et la série de 4 épisodes sur orléans.radiocampus.org dans la catégorie « La science infuse ». Vous pourrez également retrouver les différents réseaux sociaux de Tributaire, FEM et Radio Campus Orléans sur Instagram avec tribu.terre, FEM.45 et radio_campus_Orléans. Le prochain podcast portera sur le thème des traitements.
Radio Campus. La science infuse.
I'm going?
Yeah, let's go.
Okay.
In a backstage, I'm caged like a lion, ready to wear up the phone of people like a typhoon. Tearing up a bugs and then I'm sending them to the moon. While building up a bridge and I told that you're up to Zion. Get a truth from the Bible that cannot be stifled. And the Lord, what it is sweet like tribal. It will lift you up and get you higher than the Eiffel. Nothing can compare in this gift so delightful. Hail to the watchman standing up on the walls of Zion to tell the people of the nation what time we are living in. Hail to the watchman standing up on the walls of Zion to tell the people of the nation what time we are living in.
Thank you. vay kurban. Alacağım ben seni vay gülüm, kalabalık yedisin. We'll be right back.
I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I knew, but I've forgotten you very well. Yeah, I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name, or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool. What a fool am I to think my breaking heart could get the moon? What's in store? Should I fall once more? It's best I stick to my tune. Cause I get along without you very well. Yeah, of course I do. Except perhaps in spring. But I should never, never think of spring, for that would surely break my heart.